RTVFM.
RTVFM.
L'agenda, les infos, les bons plans.
Que des hits.
RTVFM.
100% tube.
Vous écoutez les après-midi d'RTVFM à Carpentras sur le 102.2.
Voilà, ben.
on dira de l'eau derrière.
On dirait de l'eau. On
va pas... ça annonce bien
ça
les invités.
Ça annonce notre sujet, notre thème. Oui, effectivement, vous l'avez annoncé un petit peu en début d'émission. Nous avons des invités dans le studio. On vous avait pas dit qui, mais on va vous les présenter avec Willy. Donc, il s'agit de Yvan Pacôme, qui est commandant du centre de secours principal des sapeurs-pompiers de Carpentras. Yvan Pacôme, bonjour.
Bonjour.
Il est accompagné d'un sapeur-pompier également qui s'appelle le Pierrick Plisson. Bonjour, Pierrick Plisson.
Bonjour.
Alors, on est ravis de vous avoir dans les studios. Alors, monsieur Pacôme, on a eu l'occasion il y a 2 ans, je crois, de vous avoir sur l'antenne d'RTVFM.
C'est ça.
Vous étiez venu parler de prévention feu de forêt. Alors c'est vrai, comme on le disait un petit peu en off, on a tendance avec toutes ces pluies à oublier un petit peu, à se dire oh, les feux de forêt c'était l'année dernière, c'est loin. Mais le Mistral nous le rappelle aujourd'hui que les feux de forêt, malheureusement, ça serait bien que ça n'existe plus, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Alors aujourd'hui, encore une fois, on est ravis de vous recevoir pour parler un petit peu de prévention. Et qu'est-ce que vous pourriez justement nous dire à ce sujet? On va parler de l'accès des massifs, la prévention peut-être que chacun peut faire tous les jours dans notre comportement. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu à nos auditeurs?
Tout à fait. Alors, premier message, il ne faut pas se relâcher. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup plu ces dernières semaines que l'été ne sera pas chaud pour autant et que les risques feux de forêt, il y en a encore. Et au contraire, justement, parce que la végétation a bien poussé grâce à la pluie, notamment au niveau de la strate arbustive et des herbes. Et quand ça va sécher, ça fera beaucoup de combustible au sol qui pourra s'enflammer facilement. Donc ça veut dire qu'il va falloir débroussailler autour de ces habitations conformément à la réglementation. Et donc c'est 50 mètres autour des habitations qui sont à proximité des massifs forestiers ou dans les massifs forestiers.
Alors ça, on ne l'explique jamais assez, ces 50 mètres. Alors je vous coupe 30 secondes pour bien expliquer à nos auditeurs. Souvent, certains ont tendance à dire, oui, mais 50 mètres, c'est chez le voisin. Est-ce que j'ai obligation de le faire? Le voisin, je ne le connais pas ou il ne répond pas à mes appels. Comment on peut faire sur ces 50 mètres quand une partie, justement, n'est pas dans sa propre propriété?
Alors, en fait, tout ce qui correspond à sa propriété doit être débroussaillé, ça c'est sûr.
D'accord.
Sinon, effectivement, si c'est sur une parcelle d'un autre propriétaire, c'est le propriétaire qui doit en assurer le débroussaillement. Si jamais ce n'était pas fait, y a des services municipaux ou des services préfectoraux pour ça. Il ne faut pas hésiter à signaler que quelqu'un ne fait pas son travail consciencieusement et du coup peut générer un risque par rapport à ça. Donc, c'est aussi cette démarche civique qu'il faut savoir avoir. Maintenant, la meilleure solution, c'est de bien s'entendre avec ses voisins. Et puis de se répartir les tâches. Quoi.
Donc, je vous laisse poursuivre 50 mètres donc, autour de la propriété.
Voilà, ça c'est toute la partie débroussaillement. Alors, ça concerne pas que les gens qui sont isolés en massif forestier. Par exemple, sur Carpentras, tout le quartier de la Lègue est concerné. C'est un quartier qui est concerné, on considère qu'il y a un risque feu de forêt significatif. Donc, on encourage les gens à faire ça. Les chemins d'accès aussi, hein, 10 mètres de part et d'autre de la route, les chemins d'accès des maisons qui sont en massif forestier. Il faut que les gens qui les aient en droit. Fasse le débroussaillement de part et d'autre.
Oui, mais voilà, mais là, il peut y avoir des chemins qui sont des chemins vicinaux ou communaux.
Alors, après, sinon, c'est la mairie qui...
Donc voilà, c'est juste celui en fait, qui arrive chez vous.
Voilà,
quoi,
c'est ça,
chez vous.
Votre chemin
donc,
d'accès.
10 mètres. Hein.
Oui, 10 mètres de part et d'autre. Oui, tout à fait.
D'accord.
Et le débroussaillement, c'est tout couper au sol et séparer les houppiers des arbres de 2 mètres au moins. Donc c'est aussi beaucoup de travail.
Qu'est-ce que vous appelez les houppiers?
Le sommet des arbres, en fait. Là où il y a la végétation verte en haut d'un pin,
oui.
En fait, il ne faut pas qu'il touche l'autre pin. Il faut laisser 2 mètres.
Donc ça, c'est très bien aussi de le soulever parce qu'effectivement autour de l'arbre aussi je suppose c'est la propreté autour de l'arbre
ah oui, au sol il faut qu'il n'y ait plus rien jusqu'à 2 mètres de hauteur
c'est jusqu'à 2 mètres de hauteur
tout ce qui est broussailles herbes basses etc ça doit être coupé court.
Ouais, alors c'est vrai que c'est pas alors justement
là c'est pas évident parce que justement par exemple à côté de chez moi j'ai une haie de comment on appelle ça d'épicéas qui sont vraiment très très hauts mais qui se touchent quoi.
Oui, alors les
c'est la haie.
Non, les haies de séparation on les laisse ça pour le coup il y a pas le choix. Non,
voilà, d'accord. La précision est bonne.
Oui, tout à fait.
Donc ça il y a une période je suppose butoir là ça doit être fait pour là on arrive sur l'été logiquement
voilà,
tout le monde doit être toujours possibilité ceux qui nous écoutent qui se disent mon Dieu on n'y a pas pensé ils peuvent encore le faire bien sûr il est toujours temps de le faire tout le temps.
Tout à fait, il est jamais trop tard pour le faire. Nous concrètement on considère que pour l'instant on n'est pas vraiment en situation de risque. D'ailleurs la saison feu de forêt pour nous va vraiment commencer début juillet. Le 2 juillet on n'a pas réellement activé encore notre dispositif en termes de préventif etc.
Alors, quand vous activez le dispositif, les accès au massif, souvent on se pose la question, on se dit voilà j'ai envie d'aller faire une promenade en famille, comment est-ce que je peux déterminer si les accès sont accessibles ou pas, est-ce qu'il y a des possibilités, comment on fait?
Oui tout à fait, donc effectivement il y a un numéro qui est à la préfecture, donc vous allez sur le site de la préfecture avec un numéro de téléphone qu'on peut appeler tous les jours et qui donne en fait en fonction du niveau du risque feu de forêt, si on peut accéder au massif, soit toute la journée, soit que le matin. Bon, il y a des sites où les accès sont permanents. Hein. On prend Fontaine de Vaucluse, Rustrel, qui sont des sites touristiques importants. Là, on a accès en permanence, sauf vraiment circonstances exceptionnelles, parce que ça pourrait arriver. Mais oui, oui. En général, on y a accès. Et puis, voilà, pour l'as du massif, en fait, il faut appeler en fonction du niveau de risque, on peut accéder ou pas au massif et faire des balades, soit voilà, que sur le matin, soit sur toute la journée.
Alors, on va parler prévention, peut-être, si vous le permettez, un petit peu. Mmh. Dans le massif, je me trouve dans un massif, je fais une balade avec les sacs à dos en famille. Quels sont les gestes à ne pas commettre, à ne pas faire?
Alors, il est interdit de fumer.
Oui, ça tout simplement. Oui, mais c'est vrai que les fumeurs, peut-être par l'habitude, des fois, ils n'y pensent pas toujours. Oui,
c'est ça, il est interdit de fumer. On peut être verbalisé, hein, même pour ça, bien sûr. Et a fortiori, il est interdit de faire des feux nus, enfin, de faire des feux tout court. Donc,
Vapotage toléré, je suppose, que oui. Lui, ça ne produit pas de, ça ne produit pas de, voilà, de,
tout à fait.
De risque.
Non, ouais, voilà. En fait, pas d'utiliser de flammes et pas faire de barbecue, pas faire de, voilà, de feux de camp, a fortiori, des choses comme ça.
Camping interdit, je suppose aussi.
Oui, pardon, camping est interdit en général. Interdit.
Alors, est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que les bouteilles en verre que l'on laisse en forêt peuvent effectivement, avec le soleil, faire réverbération et éventuellement mettre le feu?
Effet loupe.
Ouais, alors bon, on le dit, pour être franc, moi je ne l'ai jamais eu constaté comme type de départ de feu, puisqu'en fait à chaque fois qu'on a un départ de feu, on a des enquêtes qui sont faites pour essayer de trouver les causes et les circonstances. C'est jamais remonté. La plupart du temps, c'est le mégot de cigarette hein, en négligence. Après, il y a le départ de feu volontaire. Voilà, j'ai pas eu ça. La foudre aussi, qui est une cause importante, oui, de départ de feu.
Oui, la foudre, oui.
On l'a vu l'année dernière hein, sur le feu de la Bastidone, où il semblerait que ce soit la foudre qui soit à l'origine de ce très gros départ de feu qu'on a eu l'année dernière.
Il y a des départements qui sont beaucoup plus touchés justement par des débuts d'incendie dus à la foudre. Moi, je suis d'originaire des Choises, je veux dire, ça arrive, je l'ai même vécu. Hein. Sur un châtaignier, ça tombe et ça prend feu.
Non, mais c'est bien effectivement de le préciser parce que voilà, moi j'avais dit l'idée reçue de cette bouteille en verre, ou plutôt le cul, on va dire,
oui,
le cul en verre, et qui peut faire loupe effectivement sur des choses sèches et donc mettre
le
feu.
Peut-être,
donc,
mais voilà, c'est pas quelque chose qui est référencé comme étant un départ de feu classique. C'est
la précision est bonne, mais enfin, à éviter quand même.
Dans tous les cas, de toute façon, ça pollue. Donc,
dans tous les cas, voilà, c'est de la pollution, il ne faut pas mettre les bouteilles dans la nature.
Alors, ce plan départemental de prévention donc, existe depuis quelques années, je suppose. Il a été mis en place depuis quelques années sur le département ou au niveau national,
je ne sais pas. Tout à fait, au niveau national. Enfin, c'est une démarche qui est nationale et la démarche de prévention dans les forêts et de limiter l'accès au massif, ça date des années 90, donc c'est quelque chose qui est maintenant ancien. Quoi.
Alors, quand ce plan départemental s'est mis en place, ça vous a amené quoi, vous, qui intervenez justement dans les massifs? Est-ce qu'il y a des choses, des citernes, des choses qui ont été implantées? Voilà, toute cette procédure.
Tout à fait. Donc, la défense de la forêt contre l'incendie, qui est donc une mission au départ de la préfecture, mais auquel on concourt, nous, en tant que service départemental d'incendie de secours. On n'est pas seul aussi dans ces missions-là, hein, puisque il y a l'ONF hein, au niveau de la préfecture, mais aussi les comités communaux feux de forêt, qui sont donc des associations de bénévoles qui participent à la prévention et à la lutte aussi hein, contre les incendies, notamment contre les feux naissants, puisqu'ils participent à la détection. Donc, l'ensemble des services concourent justement à protéger la forêt, et ça va se faire aussi par des éléments d'infrastructure, donc des pistes DFCI de défense de la forêt contre l'incendie qui vont être, elles, débroussaillées sur 50 mètres de part et d'autre, la mise en place de citernes qui vont faire jusqu'à 120 mètres cubes et leur entretien. Donc nous, on fait par exemple, on participe à la tournée chaque année de vérifier que les ouvrages DFCI sont en bon état.
C'est ce que j'ai vous demandé.
Voilà, c'est les barrières aussi, on vérifie qu'elles sont fermées, qu'elles fonctionnent. Mais par contre, nous, on n'en assure pas après l'entretien.
Non, mais vous le signalez.
Voilà. C'est ça, ce sera la compétence de la DDT ou des communes, enfin voilà, ça dépend.
Donc toutes ces choses-là ont vu le jour grâce au plan départemental de prévention des incendies.
Oui, tout à fait.
Qui bouge, je suppose, qui évolue chaque année en fonction de ce que vous faites remonter, vous, les professionnels?
Oui, voilà, et puis par exemple, typiquement, sur l'accès au massif, on a eu une période où l'accès du massif, par exemple, pour toute la partie sud du département, en dessous des gorges de la Nesque, on n'avait pas accès du tout pendant toute la période estivale. Et puis malgré tout maintenant on a un peu rendu les choses plus souples pour quand il n'y a pas de risque feu de forêt, c'est dommage d'empêcher les gens de profiter du sud du Béron ou des monts du Vaucluse. Donc maintenant ils peuvent y aller à condition d'appeler le numéro de téléphone que j'indiquais là, sur le site de la préfecture.
Sur le site de la préfecture. Au niveau des interventions canadaires, est-ce que pour vous, alors déjà c'est géré de quel endroit? De Marignane toujours? Ils sont déplacés?
Alors non, ils sont maintenant basés à Nîmes.
Ils se sont déplacés sur l'ancienne base aérienne, c'est exact.
Ça, ouais, voilà, ouais,
ils sont à cet endroit-là. Mm-hmm. Bon, comment ça se déclenche? C'est vous, c'est le COJ, je ne sais pas si on appelle ça le COJ, chez vous, le centre, l'état-major d'Avignon?
Non, c'est le CODIS.
Le CODIS, pardon. Le COJ, c'est police. C'est déclenché, alors ça se passe comment la relation justement avec l'intervention? C'est vous, personnel au sol, qui à un moment donné signalait à votre PC que voilà.
C'est ça, il y a deux possibilités. En fait, déjà, quand il y a un risque important, il va y avoir des guets aériens armés, donc avec des moyens aériens qui vont voler en permanence et qui vont participer à la détection. S'ils voient un départ de feu, ils prennent contact bien sûr avec le département via le CODIS, enfin via des postes radio, mais au CODIS. Ils vont demander une autorisation de largage pour savoir s'il y a des gens au sol ou pas, parce qu'effectivement, un largage de Canadair ou même de Tracker, ça peut tuer des gens. Donc s'il n'y a pas de sapeurs-pompiers, ils vont avoir une opportunité de largage en autonomie et donc pouvoir larguer directement. Sinon après, voilà, c'est l'inverse, c'est nous qui allons sur place et puis on voit que le feu prend de l'ampleur et il faut l'aide des moyens aériens. Donc on va faire la demande au CODIS et le CODIS va demander en fait au COS, au centre opérationnel zonal, donc, qui est basé lui à Aix-en-Provence, enfin à Marseille maintenant, parce qu'il a changé de place. Ouais. Et c'est lui qui va déclencher les moyens aériens,
les moyens
qui vont
aériens.
Venir voilà, se mettre en contact avec nous. Et après, en fait, le COS, donc le commandant des opérations de secours sur le terrain, lui parle directement avec les moyens aériens via des postes radio.
Voilà. Alors, je reviens un petit peu sur ce qui nous concerne Carpentras. Vous êtes combien à l'effectif sur le centre de secours de Carpentras?
Alors, on est 47 professionnels et on est 60 volontaires actuellement, plus 11 personnels du service de santé, donc des infirmiers et médecins.
D'accord. Les volontaires, est-ce que c'est quelque chose chez vous, les pompiers, il y a toujours un nombre de volontaires ou ça devient plus compliqué ou on sent toujours des vocations au niveau du volontariat? Comment ça se passe? Est-ce que ça a évolué?
Pour Carpentras, en fait, on est des privilégiés. Moi, par an, j'ai entre 30 et 40 candidatures pour 3 ou 4 places, voire 5 les bonnes années.
Bien.
Donc voilà. Par contre, pour les petites communes autour de Carpentras, puisqu'en fait, donc, je commande la caserne de Carpentras, mais aussi toute la compagnie,
oui,
donc,
Amazon,
avec, voilà, 10 centres rattachés, pour eux, voilà, c'est des fois beaucoup plus difficile pour avoir des vocations. Nous, on fait un peu office de privilégiés. Donc bon, d'ailleurs, on a un recrutement lundi, là où on a une vingtaine de personnes qui vont venir passer leur test pour devenir sapeur-pompier volontaire à Carpentras. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait parce que, pour être franc, on n'avait pas besoin de recruter de nouvelles personnes. Quoi.
Eh ben, si vous le permettez, Yvan Pacom, on se fait une petite pause musicale et on revient juste après pour la suite. À tout de suite.
Bien.
SMS vient d'arriver, j'ai 18 ans. On volait ma virginité, je suis plus un enfant. L'horloge tourne, les minutes sont torrides. Et moi je rêve d'accélérer le temps. Dame, dame, de haut. SMS vient d'arriver, j'ai 20 ans. Fait sans se protéger, mais je veux pas d'un enfant. L'horloge tourne, les minutes infanticides, et moi je rêve de remonter le temps. Dame, dame, des hauts, oh, oh, oh. Dame, dame, des hauts, oh, oh, oh. SMS vient d'arriver, j'ai 21 ans. 9 mois se sont écoulés, et toujours pas d'enfant. L'horloge tourne, les minutes se dérident, et moi je rêve, tranquille je prends mon temps. Dame, dame, des hauts, oh, oh, oh. Dame, dame, des hauts, oh, oh, oh. SMS vient d'arriver, j'ai 25 ans, tsunami a tout emporté, même les jeunes enfants. L'horloge tourne, les minutes sont acides, et moi je rêve. Je suis plus un enfant. L'horloge tourne, mais son cœur se suicide. Et moi je rêve du bon vieux temps. Dame, dame, des hauts, oh, oh, oh. 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 Le SMS va arriver, j'aurai 30 ans, 30 ans de liberté, et soudain le bilan. L'horloge tourne, les minutes sont des rides, et moi je rêve d'arrêter.
Down.
Voilà, mais c'était Michael Miro qu'on a eu l'occasion d'interviewer il y a quelques années au tout début de la création d'RTVFM. C'était en 2013, il était passé en concert sur Carpentras. Quelqu'un de très très sympathique qu'on n'entend plus, avec une voix pourtant loin d'être désagréable et qui a sa carrière.
Elle se laisse entendre.
Sa carrière s'est plus ou moins arrêtée, Michael Miro. Il avait juste sorti une comédie musicale en 2014 qui n'a pas très bien fonctionné. Bon, je m'excuse pour les puristes, c'est peut-être 2015. Et puis on n'a plus entendu parler. Mais en tout cas, quelqu'un de très très charmant qu'on avait eu beaucoup de plaisir à interviewer. C'était Sylvette qu'on salue, oui. Si elle nous écoute, qui avait fait son interview à l'époque. Alors nous revenons, nous n'avons pas quitté le studio, mais nous revenons avec nos invités. Donc Yvan Pacôme, commandant du centre de secours principal des sapeurs-pompiers de Carpentras, et ainsi que Pierrick Plisson, qui est lui également sapeur-pompier au centre de secours principal de Carpentras. On parlait de prévention, on parlait des moyens qui avaient été mis en place dans le cadre du plan départemental de prévention des incendies de forêt. Et justement, j'aimerais aller un petit peu au-delà de justement qu'est-ce qui est mis comme matériel en place l'été, puisqu'à partir du 2 juillet, vous le précisiez tout à l'heure, on arrive donc sur le plan, pour vous, ça va être la grosse saison, je dirais, des risques d'incendie feu de forêt. Alors, quels sont les moyens justement qui sont mis, peut-être aussi bien vous que Pierrick peuvent y répondre, M. Plisson, sur les moyens qui sont mis en place sur le département et surtout sur notre secteur de Carpentras.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, l'ensemble des moyens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À partir du 2 juillet, on va passer en ce qu'on appelle en période renforcée, donc avec une chaîne de commandement renforcée. Donc ça veut dire qu'on va avoir des cadres en renfort et qui sont mis en astreinte en plus grande quantité que sur tout le reste de la saison. Et puis on va mettre aussi en place des dispositifs préventifs, donc avec des moyens qu'on va mettre sur le terrain directement. Alors nous, on a, sur notre secteur, un des sites privilégiés, c'est le Barou en fait, ou même maintenant le lac du Paty, où on va prépositionner des moyens en surveillance, d'une part parce que le point est bien placé et que de là on a une visue assez large sur notre secteur, et puis parce que ça fait la jonction avec le secteur de Vaison-la-Romaine aussi. Et donc voilà, donc en fonction du niveau de risque, on va mettre des groupes. Alors donc un groupe, c'est un véhicule de commandement et quatre camions de lutte contre le feu de forêt, les camions citernes. Et donc on va voilà, disposer ces groupes préventifs. Et puis on a aussi, alors depuis quelques années dans le Vaucluse, acquis des gros porteurs pour la lutte contre les feux de forêt, ce qu'on appelle des CCA, des camions citernes d'attaque, qui sont des véhicules qui emportent 12 000 litres d'eau. Avec un canon qui peut balancer jusqu'à 1500 litres minute sur le toit, avec une portée jusqu'à 80 mètres. Donc c'est voilà, c'est des gros engins d'assaut feu de forêt, on va dire. Et là aussi, on en a un à Carpentras depuis l'année dernière, et on va aussi les positionner sur le secteur en préventif pour pouvoir intervenir plus rapidement, pour pouvoir aussi faire de la prévention, parce que le fait de voir les pompiers dans la forêt, ça fait penser aux gens qu'il faut faire attention. Voilà, donc il y a un double message. Et puis bien sûr, le fait d'être directement dans les massifs en termes de détection de départ de feu, ça facilite aussi des fois la détection d'un départ et le fait d'arriver plus vite sur les lieux.
Alors, vous parlez de matériel, justement, c'est un petit peu le besoin du moment. Est-ce que vous avez tous les moyens, justement, pour lutter contre le feu, éventuellement?
Oui, alors enfin, on pourrait.
Où est-ce que vous en manquez, voilà, les moyens.
Non. Honnêtement, le département du Vaucluse est un département qui est bien doté, notamment parce qu'il y a un maillage territorial de centres de secours qui est assez étroit. Il y a peu d'endroits où il n'y a pas de centre de secours dans le département. Alors, bien sûr, hein, si vous prenez le sommet du Ventoux, voilà, mais et le secteur qui est peut-être un peu plus défavorisé, c'est le plateau de Sceaux. Pour autant, ben voilà, on peut y accéder par APT. Enfin, voilà, donc on a quand même un département qui est bien maillé en termes de nombre de centres. Tous les centres sont dotés de véhicules de lutte contre les feux de forêt, ça c'est la base dans le département. Alors ils en ont un ou deux en fonction de l'importance du centre, mais donc ils ont des moyens. Et puis au niveau des moyens de lutte, ben encore cette année en fait, donc tout notamment pour protéger les personnels pour qu'ils puissent intervenir dans de meilleures conditions, on les a dotés de surpantalons feux de forêt pour mieux les protéger suite à des retours d'expérience accidentelles qu'il y a eu les années précédentes. Et puis là on a aussi changé toutes nos lances pour avoir des lances plus performantes. Donc avec des lances feux de forêt, ce qu'on appelle, donc qui sont mieux adaptées à la lutte contre les feux de forêt et donc qui privilégient une bonne portée tout en économisant l'eau, parce que le problème du feu de forêt, c'est qu'en fait on n'a que l'eau qui est dans la citerne du camion, ouais. Alors qu'en feu urbain on peut s'alimenter sur des poteaux d'incendie. Donc voilà, donc moi je considère qu'on est un département où on n'a pas à se plaindre. D'ailleurs en général il y a peu de feux, hein, et les surfaces brûlées dans le Vaucluse sont faibles. Alors exceptionnellement l'année dernière on a fait un énorme feu de 1200 hectares et puis après deux feux de 40 et 20 hectares, mais c'était pas arrivé depuis 25 ans, donc faut aussi savoir que voilà, on est un des départements de la zone sud où on fait le moins de surfaces brûlées chaque année.
Alors vous l'avez ébauché, la sécurité, là peut-être Pierrick Plisson, oui. Jeune sapeur-pompier ou pas, depuis combien d'années?
Alors j'ai été jeune sapeur-pompier de l'âge de 12 ans à 16 ans.
Ah volontaire donc?
Non, jeune sapeur-pompier.
Jeune sapeur-pompier, ouais, oui,
une école à Carpentras, école, oui. Donc j'étais dans la première session. Et c'est ma sixième année en tant que sapeur-pompier volontaire au centre de secours principal de Carpentras.
De Carpentras. L'évolution au niveau du matériel de sécurité, vous en parliez tout à l'heure, Yvan Pacom, les pantalons, les choses. Est-ce que, bon, même si ta carrière est relativement courte, quand même, oui. Même si tu as commencé à l'âge de 12 ans, est-ce que tu as vu cette évolution justement au niveau de la sécurité? Une lance tout à l'heure qui projette à plus de 80 mètres, est-ce que tout ça, je suppose, ben déjà, première chose, est-ce que tu penses déjà à toute cette sécurité qui, chaque fois que tu interviens sur quelque chose?
Alors, bien sûr, on essaye de faire le plus attention possible. Après, étant jeune, on a des chefs d'agré, des collègues plus expérimentés qui sont là aussi pour ça, pour nous aider, pour nous conseiller. Au niveau du matériel, on s'adapte. Souvent, on entend qu'il y a des projets, le matériel arrive, on se familiarise avec. Et après, à nous l'utiliser. Et si on a à l'utiliser correctement.
Oui, tu disais correctement, mais je pense que ça, c'est le rôle de...
Le métier de pompier, en fin de compte, jeune ou pas jeune, c'est un exercice de tous les jours.
C'est ça. Et le plus important, c'est...
Tu parles d'entraînement par rapport au matériel, mais l'homme lui-même, en fin de compte, c'est de l'exercice de tous les jours.
C'est ça, et venir en aide aux gens, mais se sécuriser aussi.
Mmh. Oui, bien sûr, bien évidemment.
Alors, j'avais quelques chiffres, j'aime pas trop donner des chiffres, mais je les ai sous les yeux. Le SDIS est financé à 62% par le département de Vaucluse,
c'est ça, oui.
38% par les communes et l'intercommunalité, ce qui est important aussi donc, de savoir qui participe à ce budget. Son budget annuel est d'un peu plus de 60 millions d'euros, c'est le budget annuel département. Je pense que l'article est assez récent, je crois qu'il est de 2018. Hein. Mm-hmm. Il compte plus de 1600 sapeurs-pompiers volontaires, plus de 500 sapeurs-pompiers professionnels, près de 140 personnels administratifs, techniques et spécialisés et plus de 135 jeunes sapeurs-pompiers. C'est ce que disait Pierrick. Sapeurs-pompiers, jeunes sapeurs-pompiers. Alors comment on fait justement pour intégrer, pour devenir jeune sapeur-pompier?
Alors pour être jeune sapeur-pompier, donc il y a plusieurs écoles dans le département, je n'ai plus exactement le chiffre. Il y a Carpentras, il y a sur la Sorgue, Vaison-la-Romaine, Orange...
Cheval blanc.
Et voilà.
Donc là, tu as 12 ans, tu te rappelles, tu es passionné, tu avais toujours envie de faire ça, tu t'es présenté, tu as tapé à main donnée à la porte.
Il y a eu un article dans la presse locale, et donc c'est ma mère qui m'a dit mais pourquoi tu n'irais pas essayer. Donc il y avait des sélections de sport, des sélections écrites, il y avait des bulletins scolaires aussi à fournir.
Ah, oui.
Donc on était plus de 50, il me semble, et donc une promotion de 12, et 4 ans de formation, tous les mercredis après-midi de 14h à 18h. Selon les centres de secours et les écoles, ce sera le samedi matin.
Ouais.
Donc ça dépend un petit peu de chaque école. Et donc avec des cours théoriques, de la manœuvre, du sport. Et chaque fin de trimestre, il faut mener son bulletin scolaire. Et puis on passe dans le bureau de l'officier qui est en charge de la section. Ouais. Et on fait un petit point en fait.
Donc c'est un engagement. On peut parler du mot engagement, on en parlait tout à l'heure en off.
C'est ça.
L'engagement est très important. Donc dès l'âge de 12 ans déjà, si tu es rentré dans cet engagement, tu as épousé ces valeurs justement.
C'est ça, j'ai été dans le moule dès l'âge de 12 ans.
Oui.
Et actuellement, donc, j'ai 23 ans et ça se poursuit.
Alors Yvan Pacom, est-ce que justement c'est important ces jeunes qui démarrent déjà très tôt de les avoir chez vous après qu'ils deviennent sapeurs-pompiers? Est-ce que c'est une bonne filière justement de les avoir comme ça dès le départ?
Ah oui, c'est une filière importante. Elle permet effectivement de récupérer des jeunes qui sont très très motivés, ouais. De ne pas les perdre parce que finalement aussi le fait de les intégrer assez tôt dans notre structure, alors même si c'est au sein d'une structure associative, hein, les écoles de jeunes sapeurs-pompiers sont des structures associatives qui sont faites sous l'égide de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Vaucluse. Donc tous les formateurs et tous les personnels qui interviennent là-dedans le font à titre bénévole, hein, c'est vraiment quelque chose qui est associatif. Pour autant, effectivement, par contre, la formation qui est dispensée est sérieuse. Et par contre, l'avantage, c'est que quand ils obtiennent leur brevet de jeunes sapeurs-pompiers, donc ça a été le cas d'ailleurs au mois de mai cette année pour l'école des jeunes sapeurs-pompiers de Carpentras, où je crois que la totalité ont réussi leur brevet. Et donc, ils ont été recrutés en tant que sapeurs-pompiers volontaires au 1er juin. Et avec deux petites journées complémentaires, ils ont l'équivalence d'une formation de sapeurs-pompiers volontaires. Ils peuvent monter dans les camions quasiment immédiatement dès qu'ils ont eu leur brevet, quoi.
Alors, quand vous dites bénévole et volontaire surtout, cela veut dire que chaque pompier a un métier à côté?
Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Alors, quand je parle de bénévolat, c'est qu'il n'y a pas du tout de rémunération, mais qu'ils ont une autre activité. Ah. Et parmi les personnes qui s'investissent, par exemple pour les écoles de jeunes sapeurs-pompiers, ça peut être des professionnels, c'est-à-dire des sapeurs-pompiers professionnels ou des sapeurs-pompiers volontaires. Donc là, pour le coup, c'est des gens qui ont un métier par ailleurs, qui peuvent être mécaniciens, ouais. Enseignants, maçons, qui vont en plus être sapeurs-pompiers volontaires et qui en plus passent du temps pour s'investir pour l'école des jeunes sapeurs-pompiers. Donc faut rendre hommage à ces gens-là pour la disponibilité qu'ils
Alors,
peuvent
Alors vous êtes
donner.
En plein dedans, bien évidemment. Mm-hmm. Est-ce que ça ne complique pas un petit peu la disponibilité de chacun dans la mesure où ils ont déjà un métier derrière et des obligations?
Tout à fait. Alors, bah, c'est tout le travail de gestion des personnels volontaires. C'est toute la difficulté, mais c'est aussi tout le côté passionnant. Parce qu'il faut combiner, bien sûr, les contraintes professionnelles, les contraintes familiales, parce que c'est aussi des gens qui ont des vies de famille. Et puis aussi leur passion, parce que c'est une passion pour devenir sapeur-pompier. Hein. Effectivement, comme vous le disiez, ça, même s'il y a une indemnisation pour les pompiers volontaires, ça ne les fait pas vivre et ce n'est pas l'argent qui les fait venir. Donc voilà, donc il faut combiner tout ça. Il y a aussi des fois des conventions qui se font avec les employeurs pour faciliter leur mise à disposition. Oui. Et puis ben, voilà, tout le travail, c'est aussi de gérer les plannings, de réussir à organiser la disponibilité de manière à assurer la continuité de la réponse opérationnelle, parce que c'est bien ça ce qu'on fait, pour voilà, avec gérer l'effectif, gérer les recrutements, et puis aussi de temps en temps dire à certaines personnes, parce qu'elles ne sont plus assez disponibles, qu'on ne peut pas les garder au sein de la caserne parce qu'elles ne rendent pas assez service.
Avant de se faire une nouvelle pause musicale, on parlera après, juste après du bal des pompiers, je voudrais qu'on revienne juste en quelques mots prévention. Donc si vous pouvez redonner un petit peu les gestes à avoir pour cet été, pour nos auditeurs, à ne pas faire justement pour être un citoyen responsable.
Tout à fait. Alors du coup, bah, on ne fume pas dans les massifs forestiers, on débroussaille autour de ces habitations. Pour aller se promener dans les massifs, on vérifie qu'effectivement on peut y accéder en ayant appelé le numéro dédié auparavant.
Je peux le donner. Si voilà, 04 28 31 77 11, 04 28 31 77 11, voilà.
Voilà, et donc et puis effectivement, dès qu'on voit le moindre départ de feu, ne pas hésiter à appeler le 18 pour prévenir les secours.
Ou le 112, on le précise, sur les téléphones portables, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas.
Oui, mais
je parle des personnes plus âgées.
Allez,
ça fonctionne aussi, même si on fait le 18.
Ah, oui, oui,
en fait,
les...
bien le préciser, je ne savais pas. Donc,
international, le 112 en plus.
Voilà, le 112 est un numéro européen d'urgence, le 18 est le numéro français, mais quel que soit le type de téléphone que vous utilisez, les deux numéros fonctionnent et tombent au même endroit à Avignon.
De signaler ou même d'être un petit peu citoyen, si on voit que le voisin fait un peu n'importe quoi, de ne pas hésiter, de ne pas se dire ça ne me regarde pas, c'est le voisin, d'aller lui signaler qu'il faut éviter de faire un barbecue trop près d'une haie, de cyprès ou des choses comme cela aussi.
On est tous concernés, exactement.
On est tous, voilà, tous concernés, comme on dit sur la route, tous concernés. Tu voulais juste avant la pause.
Oui, alors juste avant la pause musicale, une toute petite précision, parce que là aussi je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Les propriétaires de piscines, aux endroits justement où il y a feu ou risque de feu, qu'est-ce que eux risquent et quelles sont leurs obligations?
Alors, il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, on ne considère pas que les piscines sont des points d'eau incendie. Ça ne fait pas partie de notre stratégie dans le département. C'est vrai ailleurs, mais pas dans le Vaucluse. Voilà. Parce que d'une part, on n'est pas sûr que la piscine soit toujours pleine et on ne peut pas imposer aux gens d'entretenir leur piscine et de la rendre accessible. Puis certaines piscines ne sont pas accessibles de par la configuration des lieux. Pour autant, il arrive sur certaines interventions où on peut accéder à la piscine et que c'est le seul point d'eau ou c'est le point d'eau le plus proche. Et là, effectivement, on a le droit de prendre d'utiliser tout ce qui est à notre disposition et notamment des ressources en eau privées pour alimenter nos véhicules.
Le propriétaire ne peut pas le refuser.
Non, on prendra le...
Normalement.
Entre guillemets, la loi nous autorise à prendre tout ce qui est à notre disposition. C'est vrai aussi pour réquisitionner, par exemple, un tractopelle, pour faire un trou, des choses comme ça. On a ce pouvoir-là. Alors, c'est fait, en fait, sous l'autorité du DOS, hein, du directeur des opérations de secours, qui est, en fait, le maire sur sa commune ou le préfet, si l'intervention est importante. Et, en fait, on agit à son titre. Et c'est à ce titre-là qu'on a ce pouvoir de police, de pouvoir réquisitionner jusqu'à une piscine, s'il faut.
Merci. Bon, on se fait une pause musicale et après on va parler du bal des pompiers qui se déroulera le 13 juillet à Carpentras. Tout de suite.
Vous écoutez RTVFM à Carpentras sur le 102.2.
Oh, everyone's got their problems. There's always something on your mind. Oh, but tonight we ain't got a something. For now, let's leave them all behind. Do what you want. Oh, get on it, ooh, get on it. I don't want tomorrow. Oh, baby, tonight's so good. Tonight's so good. This is one love and follow. Oh, baby, tonight's so good. Forget tomorrow, we can do tonight again.
tomorrow. Oh baby, tonight's so good. Tonight's so good. This is one perfect act to follow. Oh baby, tonight's so good. Forget tomorrow, we can do tonight again. Tonight's so good. This is one perfect act to follow. Tonight's so good. Forget tomorrow, we can do tonight again. Yeah, we can do tonight again. Forget tomorrow, we can do tonight again.
Voilà, c'était Guy Sébastien qui s'était présenté en candidat, on peut dire candidat libre à l'Eurovision, parce que c'est quelqu'un de... C'est l'Australie, donc l'Australie ne fait pas partie de l'Europe, même l'Europe élargie Eurovision. Et il s'était présenté, c'est quelqu'un qui a, qui a assez de talent, mais il est très très connu. En Australie, Bruno, je vois que tu fais signe, tu ne le connais pas, mais en Australie, il est très connu.
D'accord.
Voilà, tout simplement. Mais j'aime bien le final aussi, j'aime bien ça.
De toute façon, Bruno, à part ZZ Top, allez, on laisse tomber, on laisse tomber.
Il y a CDC, tout bien, CDC.
Ah oui, oui.
Allez, on revient avec nos amis pompiers qui nous font le plaisir aujourd'hui d'être dans les studios. Nous avions donc Yvan Pacom, qui est commandant du centre de secours des sapeurs-pompiers principaux de Carpentras. Nous avons parlé pendant pas mal de minutes justement de prévention au feu de forêt. Et nous avons également Pierrick Plisson, qui lui fait partie du bureau de l'amicale des sapeurs-pompiers. Et maintenant, Pierrick Plisson, on aimerait parler de ce grand bal des pompiers qui est revenu un petit peu au goût du jour, qui avait été délaissé pendant pas mal d'années sur Carpentras. Et je crois que ça fait la deuxième ou la troisième année que c'est remis sur les rails. Cinquième année même, alors, ça passe si vite que ça.
Ça va être la quatrième édition.
Quatrième édition.
Voilà, donc la première était en 2015.
Ouais.
Et donc cette année, on est prêt pour la quatrième édition.
Quatrième édition du bal des pompiers. Alors tu es membre du bureau donc de l'amicale des sapeurs-pompiers. Tu es jeune membre, il y a longtemps que tu as rejoint l'amicale des sapeurs-pompiers.
Ça fait un an et demi que j'ai intégré le bureau.
Tu as participé déjà au bal des pompiers de l'année dernière.
Oui, oui. Donc ça fait ma sixième année au sein de la caserne. Ouais. Et la majorité des sapeurs-pompiers de Carpentras se mobilisent pour cet événement et tous les autres.
D'ailleurs. Alors, pourquoi justement, alors c'était peut-être tes prédécesseurs, mais pourquoi avoir voulu relancer le bal des pompiers? C'est vrai que c'est très connu, c'est très populaire. On en parle, ben voilà, c'est quelque chose qui est très connu dans l'esprit des gens. Pourquoi avoir relancé il y a 4 ans le bal des pompiers? Est-ce que tes prédécesseurs te l'ont expliqué un petit peu ou pas?
Je pense avoir l'explication. C'était la dynamique du bureau. Donc, il y avait une certaine motivation à faire un événement pour Carpentras, pour les Carpentrassiens et pour pouvoir aussi échanger avec la population.
Oui.
Y a de plus en plus de difficultés à avoir des échanges avec la population. Donc à travers cet événement, ça permet de rapprocher, mettre les pompiers en avant, les valeurs des pompiers.
Oui.
et pouvoir faire une fête tous ensemble et pour la fête nationale.
Alors justement, rapprocher les pompiers, la population des pompiers, un bal, je suppose, populaire, c'est le but, on peut le dire, le bal populaire. Le mot populaire est toujours... c'était un petit peu perdu, mais je pense que ça revient un petit peu dans l'air du temps, le bal populaire, le côté populaire.
C'est ça, c'est vraiment que la population vienne à la caserne, vienne dans la caserne, partager une soirée avec l'ensemble des sapeurs-pompiers et tout ça dans la bonne humeur, et ça fait du bien dans ces temps-là.
Alors, il y a peut-être plusieurs petits changements, mais déjà au niveau de la journée en elle-même, l'année dernière, je crois qu'il y avait une journée un petit peu portes ouvertes, je dirais, de la caserne en journée. Ceci, ça n'a pas été relancé cette année, l'histoire d'ouvrir un petit peu les lieux.
Alors, elle a été relancée, la journée porte ouverte, mais elle s'est faite fin mai.
Voilà, donc elle s'est faite différemment, voilà, du bal des pompiers.
En même temps que le vide-grenier, donc le premier vide-grenier qui a eu lieu au sein de la caserne. Donc, on a couplé ces deux événements, la journée porte ouverte et le vide-grenier, pour pouvoir soulager l'ensemble des effectifs le jour du bal.
Oui, c'est gros.
Par rapport à la préparation qui demande, au niveau de l'organisation en elle-même, des mois de préparation et les jours qui précèdent l'événement, beaucoup d'implication et d'énergie.
Alors justement, combien êtes-vous au sein même du bureau? Je suppose que tous les pompiers se mettent autour de cet événement, mais il y a un noyau, je suppose, qui porte l'événement plus que tout le reste. Combien vous êtes?
Oui, alors on est 8 membres du bureau. Après, hors du bureau, il y a certains sapeurs-pompiers qui gèrent eux-mêmes des pôles, qui ont des missions très précises. On peut dire qu'on est entre 10 et 15 à être vraiment dans le projet de A à Z. Et ensuite, tout le reste de l'effectif vient se greffer.
Alors, est-ce que justement, ce projet, tu peux nous le décrire? Alors, c'est le bal des pompiers le 13 juillet,
oui,
pardon.
Le 13.
Alors, est-ce que tu peux nous le détailler un petit peu?
Alors, donc les ouvertures l'ouverture donc à 19h. Il y a un grand parking qui est chemin du Castellas pour les gens qui voient un petit peu, donc un grand terrain où les
à côté de l'hôtel de la Cove, c'est entre vous êtes situé pour ceux qui ne savent pas encore entre l'hôtel de la Cove et le.
C'est ça. Donc ouais. Le parking se situe encore de l'autre côté.
D'accord.
Donc derrière la nouvelle zone.
La zone où il y a McDo, où il y a toutes les Super U et tout le reste.
Exactement. Donc les gens peuvent se garer là. À partir de 19h, donc de 19h à 20h, il y aura une animation musicale, un fond musical, on va dire, pour que les gens puissent prendre le temps de se restaurer tranquillement, de boire un premier coup.
Ouais.
Et puis à partir de 20h, 20h30, il y aura le groupe No Name qui sera là pendant à peu près 1h30.
Qui est bien connu, qui tourne pas mal dans la région. Qu'on a eu l'occasion de. Je crois, Bruno, tu les as rencontrés, ils sont venus dans l'émission
ouais,
So Music Live.
L'émission ici,
on les a reçus dans l'émission C'est Sonia dans l'émission So Music Live, qu'on connaît bien comme groupe. Ouais.
Bon. Du coup, ils sont déjà venus à deux reprises, donc on commence à les connaître un petit peu aussi.
Ouais.
Ensuite, à partir de 22h, il y aura Concept Music Show, donc un nouveau prestataire qui viendra mettre le feu à la caserne,
un DJ, donc ce qu'on dit, c'est un DJ.
J'ai bien aimé ça, mettre le feu à la caserne. Non, j'ai bien aimé.
Mais tout en faisant de la prévention.
Oh, mais bien évidemment, c'est une image. Je vous le souhaite d'ailleurs.
J'y tiens.
Donc, Concept Music Show, donc un DJ, tout à fait. Donc, il y aura un robot LED, il y aura. Une danseuse dans un cerceau aérien, il y aura...
Donc il y a une chorégraphie qui va avec le...
Alors ça va être côté prestataire. Ouais, après, il va y avoir beaucoup de choses. Et ensuite, donc, il y aura 4 animations des sapeurs-pompiers de Carpentras. Donc il y aura 2 chorégraphies plus 2 autres surprises.
Alors l'année dernière, ce qui avait eu un franc succès, puisqu'on a Sylvette qui avait relayé sur notre Facebook, ça toujours, c'est les pompiers qui à un moment donné font un peu les comment ils appellent les Chippendales. C'est toujours ce alors là ça l'est le public féminin.
Ça fait sûrement partie de la surprise.
On va pas tout dévoiler.
Coup, ça n'en est pas une du coup. Oui, il y aura une chorégraphie bien sûr
des sapeurs-pompiers. Il y a le calendrier en plus cette année. Calendrier Pirelli.
Alors hein, ça,
des pompiers.
Ça on en a pas encore discuté.
ça a toujours un franc succès là les Chippendales.
Tout à fait. Donc il y aura bien sûr une chorégraphie. Donc ça je. On peut le dire, il y aura une chorégraphie masculine et une féminine.
Ah d'accord, moi il y en aura pour tous les goûts, c'est formidable.
Et donc la soirée qui se terminera vers 2-3 heures du matin.
Là, tu as l'impression que tu regardes le commandant pour savoir si vous pouvez gagner une heure de plus. En vrai, sur la fiche, il y a marqué 3 heures.
Non, c'est 3 heures.
Bon, c'est 3 heures. Il y a marqué 3 heures.
Alors, jusqu'à qu'il y ait du monde.
Un événement comme celui-ci, ça se prépare de longue date. Derrière, vous n'êtes pas seul. En dehors de l'équipe, moi, ça ne me gêne absolument pas. Je vois qu'il y a des partenaires. Je ne peux pas tous énumérer. Ouais. Mais les principaux, peut-être, tu peux nous dire quand vous allez rencontrer les partenaires en général, ils ne refusent pas. Et quels sont-ils? Tu peux en nommer.
Alors, ces partenaires, donc, on a DM Location, on a La Sécurité avec SEP, on a Choc Viande. On a U-Express Carpentras, Claude Melchior, le Crédit Lyonnais. Nous avons suite à ces conseils, la mairie de Carpentras, bien sûr, et je parlerai aussi du SDIS 84, l'Union départementale des sapeurs-pompiers.
Tu peux préciser l'Union départementale, justement, qu'est-ce que c'est exactement ?
L'Union départementale, donc, c'est l'association qui dépend du SDIS 84, mais qui regroupe l'ensemble des amicales du département. Donc, l'Union départementale qui prendra en charge le poste de secours. Le soir du bal.
Et on oublie, mais effectivement, il y a encore.
Ensuite, donc, on a Orange, RTVFM, merci à vous, Cyclotone, Cohérence Bio, ERA Immobilier et le groupe Pomona. Donc,
pas mal de partenaires derrière.
On a des nouveaux partenaires cette année, on essaie de les fidéliser au fil des années. Il y en a qui sont là depuis le début.
Oui.
Et on les remercie. Et d'ailleurs, on les recevra lundi à la caserne pour la présentation, la conférence de presse du bal, pour leur présenter un petit peu en présence de No Name et du Concept Music Show, ce qui sera fait le 13 juillet.
Donc vous soignez les partenaires et c'est bien normal. Alors, précision, si sur place, il y aura de quoi se restaurer.
Et là, LCL offrira le maillot jaune du meilleur pompier, Chippendel.
Bien sûr.
Il y a de quoi, donc, restauration sur place.
Tout à fait. Donc, il y aura 3 bars et il y aura un bar pour l'espace partenaire.
Oui.
Et ensuite, au niveau de la restauration, donc, il y aura sandwich, frites. Il y aura tout ce qu'il faut en fait pour venir passer la soirée tranquillement, en famille, entre amis. Il y a tout ce qu'il faut.
Alors, tu me précisais l'autre jour quand on s'est rencontrés, c'était sur la fête des enfants à Carpentras, il y a 3 semaines, 1 mois. Tu me précisais que justement, le fait de revenir à quelque chose de populaire, c'est justement de l'ouvrir à ces... Voilà, on peut dire aux familles qui nous écoutent, c'est vraiment... pour les familles, c'est quelque chose de voilà, pour faire la fête tranquillement, pour faire des choses.
Exactement, voilà. C'est vraiment le but, c'est passer une soirée agréable,
ouais,
pour les familles, de pouvoir venir passer une soirée à la caserne des pompiers de Carpentras,
ouais,
pouvoir créer un échange, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ces soirées-là, et vraiment l'ambiance est très sympa. Ouais. Après, je vais peut-être pas être objectif, mais
non, je pense que c'est un peu ce que vous voulez faire ressortir. Et c'est le but, c'est de se dire, je viens au bal des pompiers de Carpentras. Je suis sûr que voilà, j'ai passé une bonne soirée, parce que maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu le doute. On peut le dire, les gens quand ils sont en famille, ils se disent, ça y est, on va se retrouver à certains endroits, ça risque de bouger, ils avoir un peu des bagages, choses comme ça.
Ouais.
On vient au bal des pompiers, c'est pour se détendre, c'est pour passer un bon moment.
Exactement, ça fait trois ans que ça se passe très très bien, qu'il y a pas de souci. Le groupe No Name, c'est un choix aussi, parce que ça plaît à tout le monde.
Oui.
C'est vraiment sympa, c'est entraînant. Début de soirée, ça veut dire que même pour les familles qui ont des enfants en bas âge, ils peuvent venir avec une animation musicale par No Name qui est vraiment accessible et sympathique. Et après, concept musique show, ce sera plus pour vraiment la fête.
Oui, voilà, mettre l'ambiance aussi, parce que c'est le but quand même de se faire plaisir, de passer un moment. Le prix d'entrée, ça donne droit à quoi et de quel tarif, à quel tarif?
Alors, le tarif est de 10 euros, et ouais, dans ces 10 euros sont compris une consommation, donc ouais, bienvenue, consommation alcoolisée ou non.
Ou non alcoolisée, d'accord.
C'est une consommation
au choix.
Au choix.
D'accord, donc entrée 10 euros. Pour les enfants, les tout-petits, il n'y a pas de tarif d'entrée? Il y a à partir de quel âge?
En dessous de 12 ans, il n'y aura pas de souci. Ils pourront entrer avec leurs parents sans payer.
Sans payer. Donc c'est le bal des pompiers, c'est le 13 juillet, de 19h à 3h du matin, puisque le commandant dit que oui, c'était 3h. 3h du matin. Le tarif vient de nous le donner, entrée, une conso, 10 euros. Possibilité de se restaurer sur place.
Tout à fait. Voilà. Après, je préciserai juste qu'il n'y a pas de réservation.
Ouais.
Donc parfois, on a la question, donc il n'y a pas de réservation. On peut accueillir, si je ne dis pas de bêtises, mon commandant, plus de 3000 personnes. Donc voilà, il y a de la capacité. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de réservation. On peut accueillir tout le monde.
Est-ce qu'il y a un Facebook sur l'événement ou pas?
Oui, alors il y a plusieurs Facebook. Il y a le Facebook de l'Amicale des pompiers de Carpentras,
oui,
donc sur laquelle on essaye de mettre un petit peu toutes les actualités, tout au long de l'année. Et ensuite, il y a un événement Facebook, donc Bal des pompiers de Carpentras, où on essaye de faire un petit peu monter le
La pression,
la pression,
voilà,
c'est la condition, voilà.
Jusqu'au 13 juillet.
Ouais.
Donc la pression va monter de notre côté, mais on va essayer aussi de la faire monter du côté des spectateurs et des gens qui viendront.
Peut-être une précision importante, le bal des pompiers, les sommes qui seront récoltées ce jour-là,
alors,
l'utilité, où vont-elles aller, ces sommes, une partie des sommes?
Bah, on va partir à l'essence même de l'utilité d'une amicale, voilà, des pompiers, et donc celle de Carpentras. Donc la première, c'est avant tout de réunir tous les pompiers sous une même association, de pouvoir venir en aide aux pompiers qui sont en difficulté, de pouvoir venir en aide donc à travers l'œuvre des pupilles et l'union départementale des pompiers du Vaucluse, de pouvoir venir en aide aux enfants, aux orphelins. On a malheureusement eu le cas qui s'est présenté cette année, donc pour un collègue qui a disparu. Donc voilà, c'est vraiment pour ça. Ensuite, il y a évidemment parmi les sommes, les bénéfices, il y a une partie qui est là pour toutes nos œuvres tout au long de l'année. Mmh. Avec
l'arbre de Noël,
une journée ludique, ouais, la Sainte Barbe, l'arbre de Noël, mmh, vide-grenier, journée porte ouverte. Donc voilà, ça fait les lotos. Donc ça fait pas mal d'événements. Donc voilà un petit peu pour les bénéfices.
En tout cas, peut-être le mot de la fin, toi ou Yvan Pacom, ou,
bah, on va laisser
le mot de la fin, peut-être au commandant, la fin sur un tel événement qui se déroule une fois par an.
Tout à fait. Alors, enfin, moi, je suis très attaché aussi à ce projet parce que c'est arrivé à peu près en même temps que ma prise de fonction à Carpentras. Enfin, c'est même d'ailleurs juste après ma prise de fonction que le bureau d'Amicale est venu me voir en me disant « on a ce projet-là ». Je trouve que c'est une excellente idée parce que, comme le disait Pierrick, c'est l'occasion que les gens viennent nous rencontrer dans d'autres conditions que dans celles qu'ils nous voient en général, c'est-à-dire quand ça ne va pas. Là, pour le coup, ils viennent voir les pompiers quand ça va. Moi, je trouve ça très, très bien. C'est ce que j'appelle l'ancrage territorial. C'est-à-dire qu'il faut qu'on n'ait pas des casernes renfermées sur elles-mêmes où on soit étanche à la population, mais au contraire, il faut qu'on sache aussi rencontrer les gens et échanger avec eux et leur montrer nos valeurs, parce que c'est aussi ça qu'il y a dedans. On évoquait le côté bon enfant et familial, mais c'est parce que c'est aussi nos valeurs à nous en tant que sapeurs-pompiers, et les gens, c'est aussi ça qu'ils viennent chercher en venant à la caserne. Un petit message de prévention aussi par rapport à la consommation d'alcool, ouais, elle doit rester modérée. Ouais. Chaque année, on distribue aussi des kits de tests d'alcoolémie pour que les gens reprennent la voiture en sécurité, et celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. C'est aussi important de le rappeler à ce moment-là, parce qu'on reste aussi des professionnels et conscients de ce que c'est que derrière un accident de la route, avec tous les drames que ça peut impliquer. Quoi.
En tout cas, on vous souhaite un excellent succès pour cette 4e édition donc, du Bal des Pompiers. On le répète, à Carpentras, le 13 juillet de 19h à 3h du matin. Donc voilà ce qu'on peut dire de plus. Merci en tout cas d'être venu dans les studios d'RTVFM. Merci Yvan Pacom, commandant du centre de secours de sapeurs-pompiers principal de Carpentras. Merci également à Pierrick Plisson, qui fait partie bien sûr du centre de secours des sapeurs-pompiers et qui est sapeur-pompier. Et puis on peut vous dire peut-être à l'année prochaine. Ah ben, puis nous, on se reverra sûrement à la conférence de presse lundi.
Lundi, on se voit lundi et le 13 juillet.
Le 13 juillet. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous.
Et le 13 juillet, donc à la caserne de Carpentras, l'adrénaline va monter, mais pas pour les mêmes raisons.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Au revoir. Merci. Merci.
Cherche pas la plus belle des relations, plutôt du genre à profiter de la vie avec passion, sans prise de tête, pas de tension, fais bien attention, je serai ton addiction. Amor, yo quiero estar contigo, para una noche en el sexo, dame un besito, mi amor, baby, dame lo por favor. Allonge-toi, donne-moi tes mains, ferme les yeux, ne pense à rien. À chaque fois, je ne vois que du flirt avec toi, yeah, yeah. Acércate, ven y siénteme, que estoy caliente, ay, yeah. Dale, ven, siéntelo, tranquila, no pasa nada. Allonge-toi, donne-moi tes mains, ferme les yeux, ne pense à rien, tous les deux jusqu'à demain. Non. Claro de luna, viens faire le tour du monde avec moi, Bolémi. Laissons mon corps faire ce voyage en micosita. Señorita, te sens-tu prête à voyager, profiter, oublier une soirée. La luna, viens faire le tour du monde avec moi, Bolenita. Laissons mon corps faire ce voyage en micosita. Señorita, te sens-tu prête à profiter, rien qu'une soirée.
Radio Territoire Ventoux, l'esprit jeune.